écrit, et donc on a choisi finalement le mot traduction dans son rapport à la dramaturgie. Je précise parce que l'année dernière, on a travaillé avec une grande ronde de traducteurs et davantage dans de réflexions sur le métier de traducteur. Cette année, c'est peut-être plus dans une perspective dramaturgique. Alors, c'est la règle du jeu pour ceux qui ne sont pas encore venus, ceux qui ne sont pas venus hier, donc, c'est que l'un d'entre nous ouvre la séance par un exposé assez bref, qui n'est pas une conférence, qui est une sorte de façon de situer la question, de poser des problèmes. Aujourd'hui, c'est Éloi Recoin qui est évidemment traducteur qui est auteur, qui est metteur en scène et qui est professionnel associé à l'Université de Paris 3, et par ailleurs qui dirige un atelier ici le matin pour l'Université d'été. Il va ouvrir la réflexion. Vous êtes ensuite tous invités à réagir. On a choisi, traduction ça paraît une sorte d'évidence ici à La Mousson, qui est un lieu aussi de rassemblement de nombreux traducteurs, et on a au moins, à ma connaissance, deux déclarés dans la salle que dûment mandatés et sûrement des tas d'autres. Voilà.
En fait, j'ai pas tellement envie de brosser à grands traits une espèce d'historique de la notion de traduction, d'évolution de la traduction au cours du temps. Je profite de l'occasion et pour ouvrir les débats de vous parler de là où j'en suis, de ma pratique de traducteur et de ce lien très fort, je vois de plus en plus fort, entre l'acte de traduire et la dramaturgie en général. Le mot de traduction, d'une certaine façon, pour moi, c'est le nom propre d'une utopie, une des dernières utopies actives, qui postule, présuppose l'universalité de la littérature. C'est cette croyance que ce qui s'écrit à Buenos Aires ou quelque part au fin fond de Norvège, dans une écriture singulière, dans une langue parfois parlée par très peu de locuteurs, va pouvoir subir une métamorphose et toucher ailleurs, autre part, d'autres gens. Ce postulat est important et il constitue pour moi une expérience sans cesse renouvelée d'élargissement de mon champ personnel. C'est-à-dire que j'ai l'impression, à chaque fois que je traduis une œuvre nouvelle, d'élargir tout simplement mon univers personnel et ce faisant, j'espère, de ceux qui n'ont pas accès à la langue originale. La traduction représente pour moi un acte d'écriture, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement modestement l'activité d'un passeur, qui est déjà pas si mal, rive à l'autre, selon cette métaphore bien connue, mais c'est quelqu'un qui, affrontant une écriture qui est elle-même une langue étrangère dans sa propre langue, les grands chudales sont écrits dans une langue étrangère, c'est Proust, une singularité dans sa propre langue, m'invite, m'oblige à produire dans ma propre langue une singularité. C'est donc, pour moi, un postulat très fort, orgueilleux, si on veut, démesuré, utopique, mais c'est celui-là. L'écart irréductible que tout à chacun se plaît à remarquer entre une langue et une autre, cet écart, loin d'être, comment dire, la source d'une mélancolie profonde et désespérante, est au contraire ma joie. Finalement, la punition divine est pour moi un divin cadeau. C'est-à-dire que la diversité des langues est l'occasion justement, la possibilité même que la poésie se déploie, que l'art se déploie, que la variation se déploie. Mais ce faisant, je considère donc qu'il y a dans l'acte de traduction un acte d'écriture qui rivalise dans un mouvement de trahison profonde. rivalise avec la langue d'origine. Cela étant dit, cette activité de la traduction suppose au fond un rapport passionnel, toujours avec les auteurs. Idéalement, les conditions du traducteur ne permettent pas toujours, on ne devrait traduire, trahir que ce qu'on aime. Suppose un rapport à l'autre qui, loin de l'effacer, l'accueille en le reconnaissant comme un intrus dans sa propre langue, dans ma propre langue. Il est important, au fond, pour moi, et c'est une position, une ligne de partage entre les traducteurs, probablement, mais pour moi, il est clair que le mouvement de la traduction n'efface pas l'origine étrangère du texte que je traduis, mais au contraire, avoue, reconnaît, fait vivre même cette présence de l'étranger en moi. Je crois que l'accueil de l'étranger suppose une intrusion, suppose une gêne, quelque chose qui va me déranger dans ma propre langue. C'est-à-dire que le confort initial qu'on peut avoir dans sa langue, tout d'un coup, se voit... voilà. Je suis devenu, depuis que je traduis, intranquille dans ma langue. Je suis devenu inquiet perpétuellement, en mouvement perpétuel par rapport à ma propre langue et à celle des autres. Je sais que dans cet écart dont j'ai parlé, et bougie la poésie, il y a un mouvement perpétuellement à recommencer du geste de traduire, et que une des douleurs qui est peut-être la condition de tout artiste, c'est bien justement ce moment où on décide de l'abandon, de l'arrêt de la traduction. Pourquoi on s'arrête? Pourquoi c'est fini? Alors c'est parce qu'il faut que ça soit lu à la Rousson, c'est une raison, mais c'est ce geste même de l'abandon provisoire qui fonde peut-être la mélancolie de toute œuvre d'art, d'ailleurs. Donc il y a cet aspect, je dirais, passionnel et en même temps attentif à l'étrangéité de l'autre qui étrangifie ma propre pratique, ma propre langue. Mais en même temps, se grève dans cette activité une obligation, je dirais, de rationalité. C'est-à-dire qu'il y a un travail profond d'observation de la forme. C'est-à-dire on est dans un travail rationnel d'observation. Mais dans l'observation, le problème, c'est qu'on est dans une distance qui est à la fois l'épaisseur temporelle, si c'est un texte ancien, qui est l'épaisseur culturelle, l'épaisseur historique, et qui fait que cette observation se double d'une imagination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une rationalisation de l'observation, il y a nécessairement une activité imaginatrice de l'observation. Donc activité passionnelle et rationnelle, et qui, dans un troisième temps, dans le même temps, je dirais, est une activité ludique, c'est-à-dire qui ne se prend pas, comment dire, dans la posture, dans la chose éternelle qu'on va le faire, mais qui, au contraire, active, réactive au maximum toutes les possibilités de jouer avec la langue, sa propre langue, en regard de la langue de l'autre. Donc c'est d'une certaine manière l'épreuve de l'altérité en ce qu'elle révèle votre propre identité, en ce qu'elle vous constitue comme destin, finalement. Cette activité d'observation, elle est d'autant plus nécessaire que je parle ici de traduction théâtrale, finalement de traduction pour le théâtre, et que ce que je sais d'emblée lorsque je traduis du théâtre, c'est que la chose est destinée à la scène, et que ce texte comprend une part absente qui est acteur et son devenir scénique. Quel est le rapport de cette... En quoi ? Donc la traduction, de certaine manière, est une... C'est le mot de la dramaturgie, je dirais. C'est le mot de la dramaturgie parce que d'abord il s'agit de produire, au sens étymologique, une dramaturgie. Et cette dramaturgie n'anticipe pas la dramaturgie du metteur en scène. Elle n'est pas une réponse anticipée de la mise en scène, bien que André Vitesse ait pu dire la première mise en scène d'un texte. Elle est la métamorphose d'une dramaturgie qui espère, dans ce mouvement, conserver la pluralité des sens, la polysémie initiale, les interprétations du texte original. C'est-à-dire qu'elle elle implique une ambition, là aussi, non pas de fermer, c'est-à-dire de fermer le sens, de fermer les portes du sens inclus dans le texte de départ, mais au contraire, d'égaler, si possible, et peut-être même parfois par les bonheurs et les vertus propres à chaque langue, d'ouvrir d'autres polysémies. C'est-à-dire que la traduction donc, n'est pas une explication de texte gardienne d'un sens initialement inclus, mais elle est productrice de sens et de nouveaux sens. C'est son paradoxe, entre un de ses paradoxes. Et puis, le fait que la destination scénique soit sans cesse dans la perspective du traducteur de théâtre, il est donc débarrassé de toute une série de soucis qui n'ont pas lieu d'avoir, qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, vous rencontrez une obscurité dans le texte, nulle explication, la traduction n'a pas à se faire l'explication de cette obscurité. Le travail de l'acteur, un mouvement d'épaule, une réponse du metteur en scène va éclairer, illuminer ce qui peut paraître obscur. Donc c'est bizarre, c'est-à-dire activité rationnelle qui tente de faire la clarté, de répondre à l'énigme de l'œuvre, et en même temps qui ne résout pas l'énigme, mais qui le reformule. On voit bien, quand je parle de métamorphose, enfin, comme la traduction comme projet de métamorphose, qu'on est au cœur du théâtre, car en vérité, le théâtre, c'est le lieu même des métamorphoses, et c'est en même temps, je dirais, emblématique de la vie, mais l'autre vie, nos vies ne sont que succession de métamorphoses qui vont vers l'amour. Donc il y a dans ce travail de métamorphose une dramaturgie explicite, c'est-à-dire quel regard je porte sur ce texte, quel théâtre je convoque, je ne suis pas hors du temps quand je traduis, je suis dans mon temps, je suis dans un champ polémique, dans un champ culturel particulier. Quel théâtre j'ai en tête? Et au fond, il vaut mieux expliciter ce théâtre qu'on a en tête, c'est-à-dire cette dramaturgie qui soit implicite dans l'acte de traduire, pour mieux trahir en quelque sorte en connaissance de cause. Je crois que la trahison donc, n'est pas une défaite encore une fois du traducteur, mais un geste d'amour fondé sur la connaissance profonde que l'on a de l'autre. Et la reconnaissance que l'on a de l'autre dans son irréductibilité. J'ai souvent l'impression que cette activité constitue en quelque sorte une dramaturgie en acte qui est en effet la première mise en œuvre avant le passage à la scène. Bien souvent, j'éprouve moi-même, quand je dois travailler, mettre en scène des textes qui ne sont pas des textes étrangers, le manque de ce moment d'introduction, comme si ce moment d'introduction était une manière de rentrer dans le texte, de rentrer dans la connaissance profonde de ce qui était le mouvement de l'écriture de l'écrivain, de remettre les pas dans les pas d'une écriture. Car ce que l'observation et le travail de la traduction montrent, c'est à quel point ce qui est scellé dans la langue, ce n'est pas seulement des idées, des pensées, aussi bien que soit-elle, mais c'est bien le corps. Il y a un corps de fiction qui est peut-être le corps de l'écrivain, et qui rencontre le corps du rôle, en quelque sorte, et qui se tresse avec le corps de l'acteur qui va s'en saisir. Et que ces trois corps, d'une certaine manière, la traduction doit en reconnaître et en préserver la place. Très souvent, le sentiment que j'ai face au texte à traduire, c'est que je ne suis pas dans une perspective dramaturgique globale dans ce traduit texte, mais que j'ai plutôt le sentiment de sortir dans des dramaturgies locales, successives, que je n'ai pas, un point de vue d'ensemble, sauf, comme les principes, comme je disais, je n'ai pas en vertu de ce débat, mais que, profondément, je m'ouvre à l'inconnu. C'est-à-dire que je m'apprête à faire une expérience dont je ne sais pas ce qu'elle sera, dont je ne sais pas où elle va me mener, je ne me refuse pas à l'expérience que me propose l'écriture de l'autre. Ce faisant, je ne tranche pas nécessairement, je ne réponds pas d'avance aux questions qui vont se poser après. Je n'anticipe pas sur les questions qui seront celles de l'acteur ou du metteur en scène. Malgré tout, concrètement, quand on amène la traduction au plateau avec les acteurs et les metteurs en scène, les questions viennent et elles portent très souvent justement sur des questions cruciales. Les acteurs et les metteurs en scène, qui sont les bons acteurs et les bons metteurs en scène, sont des infaillibles détecteurs de mauvaises traductions, d'erreurs de traduction. Ils sont peut-être dans un tel souci, comment dire, de construction cohérente des signes, que apparaît très vite l'incohérence. Je me souviens un jour d'avoir lu au hasard comme ça une nouvelle de Bob Hartman, qui se passait à Klagenfurt. J'avais pas lu trois lignes, que je voyais la mer apparaître à Klagenfurt. J'ai compris que cette traduction, je pouvais la laisser tomber. Sans être même chamaniste, on peut savoir qu'il n'y a pas de façade maritime en Autriche et que il y a un malaise. Voilà. Donc bien évidemment, ce que je dis jusque-là, c'est qu'il y a bien un travail de précision et un travail d'exactitude dans la reconnaissance de ce qui est en face de nous, mais qu'il y a à un moment donné des choix qui ne sont pas univoques, des choix qui sont équivoques, dans tous les sens du mot, dans le lexique, dans la syntaxe, et où se jouent différentes composantes à venir du jeu. C'est-à-dire, je prends un exemple récent, par exemple, tu bites, c'est pas la même chose que tu piges. C'est clair qu'on n'est pas envoyé au même. C'est pas exactement le même champ lexical. L'effet de produit n'est pas le même, etc. Je ne sais pas ce que c'est en espagnol, mais. En tout cas, c'est clair qu'il y a un choix lexical très fort qui entraîne le futur auditeur dans une direction. Je prends le domaine lexical est souvent sensible, je dirais, chez les metteurs en scène. Parce que très souvent, on rentre en contradiction la dramaturgie interne du texte à la dramaturgie externe qu'ils amènent. Et souvent, leur désir est de « je ne peux pas me transformer ce mot-là, à quoi ça m'arrangerait mieux de la confiance ?» T'es sûr que c'est la confiance, tu ne crois pas qu'avec la foi, ça serait un peu plus intéressant. On sent bien que là, tout d'un coup, il y a des zones de friction, parce que là aussi, il y a un mouvement de traduction entre le texte de la traduction et le passage à la scène. C'est-à-dire que ce mouvement-là, les éléments fous aussi, le propre de la traduction, on voit bien qu'il est au cœur de l'opération théâtrale, qu'il est passé du texte au corps, dans l'espace, et que les problèmes se reposent ailleurs, autrement, avec d'autres réponses. On voit aussi que contrairement peut-être à d'autres temps, à d'autres périodes de l'histoire de la traduction, le fait aujourd'hui que beaucoup de gens qui traduisent le théâtre sont des gens fortement impliqués dans le théâtre, soit parce qu'ils côtoient les gens de théâtre, soit parce qu'ils sont eux-mêmes écrivains, metteurs en scène comme moi, ont une conscience aiguë des obligations, en quelque sorte, de la scène et sont très attentifs aux données du rythme. Un élément très important qui a pris de plus en plus d'importance dans l'acte de traduire. On est prêt, on sait que la trahison, c'est pas d'être, ça peut être d'être littéral, et que la trahison, la justesse de la trahison, c'est peut-être de perdre des mots pour conserver le rythme. Alors, le traducteur est dans cette situation souvent au trébucher de sa conscience, de sacrifier une chose pour en préserver une autre, pour tenter quoi ? Pour tenter finalement, non pas de dire la vérité ultime du texte, de produire la vérité dernière du texte, mais pour produire du jeu. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une justesse, la recherche d'une justesse qui rend justice au poète dans le moment historique présent où la traduction se fait, et qui propose, donne du jeu aux acteurs. L'enjeu de la traduction théâtrale, c'est de donner du jeu. Qu'il y ait du jeu dans la langue. Donc cette attention au rythme, cette attention à la forme, fait que l'on se met à regarder les textes comme un musicien pourrait défricher une partition et capter toutes les informations que ce texte contient. Il cherche à prendre en compte toutes ces données factuelles, matérielles du texte. Il cherche à les comprendre dans sa langue. Alors évidemment, dans ce transfert, dans ce transport amoureux d'une langue à l'autre, je crois qu'il y a un regard, moi j'ai en tout cas un regard profondément amoureux sur les auteurs que je traduis, il y a nécessairement un coup de force. Un coup de force qui est absolument nécessaire. L'autre jour, j'entendais Michel dire, je ne parle pas de ça, je ne parle pas d'espagnol, mais donc là, perdu la tête en espagnol par J'aime Chapeau, et puis ensuite il disait, qui est devenu perdu la tête par J'aime Chapeau. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est quand même Armando Llamas dans la traduction d'Armando Llamas, c'est-à-dire qu'en fait, on en a l'illusion peut-être, mais en fait c'est quand même ça ce texte qu'on montre. On montre le texte d'Armando Llamas. Et c'est ça notre réalité, à un moment donné. Alors, c'est schizophrénique pour l'acteur, pour le metteur en scène, et terrible pour le projet, si sans cesse vous êtes en train de contester, si vous êtes en train de refaire tout le mouvement de la traduction, tout le temps de la répétition, il faut arriver à un moment donné à stabiliser l'objet de la traduction et à travailler sur cette chose comme la donnée du texte. Donc vous voyez, du point de vue de la dramaturgie, la traduction a à voir profondément à la dramaturgie, mais pas forcément immédiatement, on pourrait dire, dans ses enjeux idéologiques, mais dans ses enjeux formels. Il y a une nécessité de prendre en compte la forme d'un texte, sa matérialité, que cette donnée-là est le guide le plus sûr pour ne pas s'égarer. Et il suppose aussi une espèce, j'ai parlé d'une expérience, c'est-à-dire de l'expérience d'une ouverture qui ne préjuge pas de ce qu'est le texte, de ce qu'il devrait être. Il faut refaire le chemin. Il faut refaire le chemin et on peut le rabattre sur le connu. On peut reconnaître en lui quelque chose que l'on connaît, on peut le rattacher à... Mais en fait, il faut s'accorder aussi la possibilité qu'il nous surprenne et qu'il déjoue nos attentes. Ce qui rend la traduction ludique et merveilleuse, je crois, c'est que notre attente, mon attente, est le plus souvent déjouée par le texte original. Je croyais que ça voulait dire ça, et puis non. Et puis finalement... Il y a dans le traducteur quelqu'un, on serait tenté justement de voir dans le traducteur, à partir du moment où le texte passe à la scène, quelqu'un qui serait le gardien du sens, en quelque sorte. Je sais ce que ça veut dire et je vous le dis. Mais encore une fois, il n'est que le producteur d'un sens métamorphosé. Et c'est la capacité à regarder cette métamorphose qui peut être prodigieuse ou monstrueuse, qui peut être de l'ordre de la métamorphose parfois, mais comme l'élément déterminant pour la suite du travail. L'autre jour, on entendait Kurt Weill chanter tantôt en argentin, tantôt en allemand, tantôt en anglais. C'était absolument pour moi un voyage merveilleux et prodigieux dans ce que la traduction, dans l'enchantement de la traduction, de l'acte de traduire, du geste de traduire. Je ne voudrais pas faire le long. Ce qui me semble caractériser la traduction, et c'est ça en cela qu'elle est une utopie pour moi, dynamique salvatrice, c'est que il faut essayer toujours, essayer encore, échouer toujours, comme disait l'autre, mais sans cesse recommencer. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de désespérance en quelque sorte à avoir dans le fait que l'acte de traduire soit pris dans une temporalité qui semble affaiblie. On remarque souvent que les traductions vieillissent, qu'on éprouve le besoin de retraduire. Mais au fond, ce geste de la retraduction s'apparente au geste du metteur en scène, qui remet en scène une œuvre. Il renouvelle, il refonde son rapport à l'original, il refonde son interrogation, parce que les conditions historiques ont changé, parce que notre rapport à la langue a changé, parce que notre rapport au théâtre a changé, et donc il faut tout traduire et tout retraduire, non pas seulement parce qu'il y a des sous à prendre quelque part, mais parce que c'est une nécessité pour l'humanité. Une dernière chose, c'est que j'éprouve perpétuellement une tension, qui peut être la tension de l'écrivain comme du metteur en scène, et c'est pour ça que je sens une profonde parenté dans mes trois activités, je ne suis pas du tout divisé dans mon être, mais je me sens profondément unifié par mes trois activités. Il y a une tension perpétuelle dans le geste de la traduction entre ce que j'appelle faire la clarté, reformuler l'énigme dans la plus grande clarté possible, et en même temps rester obscur à soi-même dans ce qui advient dans l'écriture. Faire la clarté et rester obscur à soi-même. Je sens dans ce geste d'écriture et de traduction de cette dimension-là qui me gouverne. J'avais dit, j'ai dû dire mal chose, mais c'est pas grave. Voilà.
Bon, merci beaucoup pour cette belle façon de parler de la traduction avec autant de, à la fois de précision et d'engagement. Moi, j'ai retenu entre autres la traduction théâtrale ne veut pas résoudre l'énigme mais la reformuler. Ça m'a parlé. Donc, les règles du jeu, c'est que la parole est à qui la veut, c'est-à-dire à des traducteurs, bien sûr, mais aussi à des auteurs, à des metteurs en scène, à des acteurs ou à des usagers de traduction. Il n'y a pas d'exclusive. Donc, je crois que là aussi, ce qu'on avait décidé avec Edouard, c'est qu'il parlait de sa façon d'envisager la traduction, et qu'il ne cherchait pas forcément ni à généraliser, ni à poser une base absolue valable pour tous les traducteurs et toutes les traductions. Il se posait un certain nombre de questions à lui-même. Donc voilà, l'échange est ouvert, s'il vous plaît, autour d'un certain nombre de choses qui ont été posées. Et la polémique n'est pas interdite. Depuis que ce lieu est devenu un parking, ça c'est une polémique, on n'arrive plus à vivre les fenêtres ouvertes. Je vais râler. Fermez la parenthèse.
C'est difficile de parler après.
Tu te présentes, enfin, tu es peut-être pour.
Je suis Laurent Bulaïs, traducteur d'allemand moi-même et directeur de la maison Antoine Vitel, Centre international de la traduction théâtrale. Je dis c'est difficile de prendre la parole après toi et moi parce que tu as formulé de façon extrêmement concise et en même temps extrêmement poétique je pense ce qu'on a tous au fond de nous-mêmes et c'est presque dommage maintenant de te réfléchir là-dessus et de dire ah ben non, on pourrait préciser quelque chose comme ça parce que tu as laissé aussi l'énigme ouverte dans ta présentation mais peut-être que sur la question du passage, la reformulation, je cite de mémoire des propos qu'avait tenus un jour Jean-Yves Masson, traducteur de Rilke, de Frank Stahl aussi, quand on lui disait, mais finalement, les grandes œuvres sont intraduisibles, c'est ce qui fait leur intérêt. Il avait réussi la poésie, par exemple, les grandes pièces. On peut justifier ça d'ailleurs en disant c'est pour ça que c'est tout le temps traduit d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de traduction, c'est pas vraiment possible de le traduire. Il avait réussi à retourner cette formulation et à dire c'est parce qu'elles sont traduisibles que ce sont de grandes œuvres. C'est parce qu'on y revient sans cesse, c'est parce que la reformulation de l'énigme se pose à chaque fois comme différente ou comme appelant d'autres instances au fur et à mesure des époques ou alors d'une culture à l'autre. C'est intéressant de voir comment une œuvre est traduite dans une langue mais aussi dans une autre et encore dans une troisième et encore dans une quatrième. Donc c'est ce qui fonde l'œuvre, c'est ce qui fonde leur grandeur. Donc les grandes œuvres ne sont pas traduisibles, c'est parce qu'elles sont traduisibles que sont de grandes œuvres, c'est pas parce qu'elles sont intraduisibles. Ce qui m'avait paru assez intéressant. Je crois qu'à chaque époque, le traducteur. Moi, je me définirais volontiers comme ça, comme ce boyau, cet entonnoir qui accueille. Alors là, c'est. Tu parlais d'orgueil, je crois qu'il y a aussi une part de responsabilité, qui, même si le mot est un peu moins poétique, qui accueille tout le maximum du champ possible dans la langue de départ, de tout ce que l'énigme recouvre, pour le faire passer finalement par un mot, ou par quelques mots, ou parfois par pas tout à fait le même mot. Parfois en changeant les mots de place, en les retrouvant plus tard. Enfin, ça, c'est, je dirais, la cuisine de chaque. C'est comme les grands chefs, ils ont chacun leur petite recette, pour ensuite réouvrir l'entonnoir, le transformer en sorte de diffuseur et diffuser la même largeur ou la même épaisseur. C'est même pas une épaisseur, c'est une constellation de sens. Ça peut changer selon les époques, ça change selon les traducteurs, ça change selon l'approche qu'on a que chacun a d'un texte. Le problème de la profération est un problème important de la traduction théâtrale. Parce que quand vous êtes en face d'un livre, vous lisez un roman traduit, vous avez affaire à qui est dans l'acte de lire, c'est un acte personnel, silencieux, qui vous met en face, qui résonne à l'intérieur de vous. L'acte de profération engage d'autres gens, et cet engagement-là va nécessiter ou va impliquer les gens vous disent oui, mais là, foi, pourquoi pas confiance, là, pardon, pourquoi pas désolé, sueur, pourquoi pas transpiration. Cette confrontation-là, cette interrogation-là des mots, du sens, du texte, on n'est pas les gardes qui font de la le rapport de la traduction de la traduction. C'est vrai que ce n'est pas une explication du sens, ce n'est pas une explication du texte. Et c'est vrai aussi que c'est le texte, comme tu le disais, c'est le texte du traducteur qui nous entend. Et ça, c'est une opération difficile parce que c'est ambivalent l'attitude qu'on a quand on est traducteur. La responsabilité qui vous incombe et la satisfaction qu'on peut éprouver à certains moments d'être juste ne doit jamais nous conduire à nous mettre en avant. Mais quelque part sur le même plan. Je ne sais pas si c'est clair ça. Si tu perçois ça, toi et moi, de la même façon. Et on pourrait se dire. C'est comme si on était dans l'acte de traduire dans une sorte d'opération de dédoublement de personnalité. On est soi et en même temps, on est l'autre. Et comme dans ces petites maisons où il y a le beau temps, ou quand il fait beau temps, il y a le monsieur qui sort, quand il fait mauvais temps, il y a la dame qui sort, je suis capable d'un pli comme ça. C'est essayer de trouver qu'il n'y avait jamais un qui soit en avant par rapport à l'autre. Il me semble que...
Ça risque d'avoir un temps juste maussade.
C'est ça, temps variable.
Temps variable, oui, pas maussade, pas rien.
Et c'est l'histoire des chemins. Moi, j'aborde une œuvre dans sa. Ce que j'appelle une couleur. En disant une œuvre, c'est une impression qui ressemble à quelque chose comme une couleur. Et les chemins, c'est effectivement des traits que tu peux tracer dans le cadre de ça. Il est vrai que ce n'est pas une idée préconçue, mais il y a des chemins qu'on emprunte. Parfois, on les emprunte à la machette, parfois, on les sent déjà un peu balisés, mais il arrive, et parfois, à l'avant-dernière scène, ou à la dernière scène, on se rend compte qu'on s'est bourré de chemin. C'est-à-dire que les options prises, la nuance donnée à la couleur n'est pas la bonne. Et il faut, ou alors la façon de tramer n'est pas la bonne. Il faut détramer pour commencer.
Oui. C'est vraiment étrange. Une chose qui m'intéresse, c'est cette histoire de trop, de prendre le risque de trop éclairer. C'est-à-dire que la traduction cherche, dans le fond, à tout régler, alors que c'est quand même au théâtre de régler. Alors, j'aimerais bien, enfin, si vous avez des exemples de ça, ça m'intéresserait qu'on en parle. Parce que c'est vrai qu'il y a une... Enfin, par exemple, il y a eu des choses qui m'ont toujours fait hurler de rage, et qui sont des tentatives de clarté absolue. C'est par exemple les traductions du québécois en français, ou du français en québécois. Enfin, je regarde Nathalie Rocher, mais ça m'a fait hurler, parce que c'est comme si, dans notre propre langue, une œuvre d'art était absolument transparente. C'est comme si, quand je lisais, tout me semble limpide, je ne vois pas pourquoi un texte québécois avec un certain nombre d'obscurités serait un problème, puisque on va les résoudre dans le jeu, on va les résoudre sur scène, on va les résoudre de toute façon, puisque le propre du théâtre est aussi de régler un certain nombre de ces questions-là sur le plateau, et pas forcément en amont dans le texte. Donc moi j'aimerais bien que les gens compétents là-dessus précisent cette histoire de, je dirais pas de maintien d'obscurité à tout prix, mais en tout cas de résistance à vouloir faire trop de clarté. Parce que je sais aussi par expérience que les textes français absolument transparents m'ennuient au bout de 5 minutes de travail sur le plateau. Donc si vous m'offrez les traductions qui sont l'équivalent de ces textes d'une telle limpidité qui m'ennuie, arrêtons là tout de suite.
Je pense que je vais répondre à la question et en même temps. Je pense que la responsabilité immense, surtout quand il s'agit d'un premier texte contemporain qu'on donne à entendre, cette responsabilité, finalement, la meilleure façon de la prendre, sa responsabilité, c'est ce que je dis, c'est-à-dire de produire si on a affaire à un poète dramatique, de se conduire en poète dramatique, c'est-à-dire d'offrir. C'est en ce sens-là que je dis que c'est orgueilleux. Mais en même temps, c'est éminemment responsable. Alors qu'une position, je dirais, de retrait, c'est-à-dire, je n'essaye pas de parler de. En effet, il y a l'idée de faire entendre le chant de l'autre, de ne pas le couvrir, de sa propre langue, de sa propre lecture, de son propre. Mais en même temps, il y a, forcément, ce que j'appelle le travail de l'étranger dans ma propre langue, c'est-à-dire forcément quelque chose qui, dans la métamorphose, il y a une défiguration du texte, et une refiguration dans, dans ma langue. Et c'est ce mouvement est inévitable, en quelque sorte. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, parfois, au fond, ce que j'appelle un coup de force, qui pourrait être une manière d'aller devant. Il n'y a pas de traduction à niveau de l'autre. Il n'y a pas de bijection idéale entre un texte et l'autre. On est souvent en effet dans ce mouvement de sur-traduction, de sous-traduction.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Le coup de force, il est nécessaire. Mais c'est le faisant, ne pas le faire dans une. Et ça répond peut-être aussi à la question de Jean-Pierre, dans un état d'esprit qui serait. Puisqu'on est dans un rapport d'une langue et d'une culture à une autre, qui serait ethnocentriste. C'est cette question de question de la dans le passage de se dire que soit on pourrait éclairer quelque chose que dans l'autre langue on sait.
Par exemple, pour reprendre l'exemple, de Tubite hier soir, plutôt que de Tupige, je me suis demandé hier soir en écoutant donc, la traduction d'Armando Llamas, que j'avais invité mais qui répète là, si c'était lui qui, si c'était bien du Armando Llamas, vu sa tendance à utiliser beaucoup le mot, ou si en effet c'était bien comme ça qu'il fallait l'entendre en espagnol. C'est un détail, mais.
Oui. Hein, en premier, c'est échangé avant-hier.
Mais ça, c'est une question de chemin, justement. Voilà, ça, c'est un exemple du chemin que tu peux prendre.
Et qui est lié au plateau, probablement, à l'expérience du plateau.
C'est-à-dire que tout à coup, tu te rends compte que sur le plateau, il y a des ambiguïtés. Et elles sont. Et Michel, il les a relevées. Qu'il y a, par exemple, une espèce de homosexualité latente entre l'inspecteur et le journaliste. Et enfin, à force de le voir, tu piges, ça devient tubite.
Donc à ce moment-là, il y aurait une aggravation ou un renforcement d'une couleur générale, enfin d'un champ lexical, je vais t'appeler couleur, à la suite du travail sur le plateau.
Mais je dirais que là, c'est en effet, en quelque sorte, la lecture dramaturgique dans le passage au plateau qui fait retour sur la dramaturgie initiale du conducteur. Mais parfois, ça peut ne pas se produire. Je crois que par rapport à ce que la question de Jean-Pierre, la grande difficulté, moi, il me semble, quand je dis, pour les textes que j'aime, ce sont bien des textes de la littérature dramatique, c'est-à-dire des textes qui, dans leur propre langue, posent, transforment, travaillent leur propre langue, obligent à un déplacement, provoquent un déplacement, c'est de reconnaître la nature de ce déplacement, c'est d'essayer de comprendre quel écart ils produisent dans le moment. Et du coup, dans l'équivalence française, quel type d'écart je peux produire. Quelle est la nature de cet écart? Et c'est bien, comment dire, c'est là où c'est la justesse, je dirais, l'appréciation, et qui est là beaucoup, qui relève finalement d'une sensibilité empirique, souvent chez chacun des traducteurs, c'est-à-dire comment on apprécie la nature de cet écart, l'originalité de cette écriture, le style. Pourquoi, quand on lit Brecht en allemand, sans même voir marquer Brecht, moi je sais que c'est du Brecht, enfin, on reconnaît, on reconnaîtrait une phrase de Proust, on sait qu'est-ce qui fait le style de cet écrivain, et alors, qu'est-ce qui fait style dans la métamorphose? Quelle est la nature du style que l'on produit dans la métamorphose?
Justement, je voulais demander une question un peu naïve. Est-ce qu'il y a deux questions? Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont plus faciles, plus simples à traduire que d'autres, sans doute? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a d'après vous deux tendances, par exemple chez les traducteurs, les uns qui seraient plus poètes, donc qui feraient passer leur acte d'écriture en fonction d'une communauté de sensibilité avec celui qu'ils traduisent plus en avant, je pense, Baudelaire, par exemple, ou sur d'autres exemples, ou d'autres auteurs qui, compte tenu peut-être justement d'auteurs qui seraient relativement, dont le passage en français serait assez simple, viseraient davantage, même si elle est impossible dans l'absolu, mais viseraient davantage la transparence et qui seraient plus des sortes de techniciens de la traduction, si on peut dire. Alors, évidemment, ça peut faire un peu bondir. Est-ce que, par exemple, je pense... Je me suis demandé, par exemple, ayant travaillé deux fois sur Thomas Bernhard, traduit par Claude Porcel, j'ai eu l'impression, en regardant l'allemand, que c'était très fidèle. Et je me trompe peut-être, c'est peut-être une idiotie que je dis, j'en sais, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais j'ai eu l'impression, je parle très peu allemand, mais enfin, j'ai un peu regardé l'allemand, j'ai l'impression, est-ce que je me trompe, que Thomas Bernhard, l'auteur de théâtre, je ne parle pas des romans, l'auteur de théâtre se transpose assez facilement en français, j'ai eu cette impression. Et que, par exemple, Claude Porcel n'interposait pas sa propre langue, mais qu'on avait presque accès, c'est peut-être un leurre, c'est juste une question que je vous pose, c'est peut-être un leurre, est-ce que j'avais l'impression que j'avais presque un accès à l'authentique au travers de cette traduction. Alors peut-être que ça va être traduit dans 10 ans, et si j'y suis encore, j'aurai la surprise de découvrir que non, que c'était très interprétatif, cette traduction, je ne sais rien, mais c'est, voilà le type de question que je me pose en vous écoutant.
Je pense que c'est pas... Je ne veux pas détruire votre illusion, mais c'est une illusion. C'est-à-dire que en même temps, si vous avez cette sensation-là, elle est plutôt agréable, et c'est à mettre à l'honneur et au crédit du travail de Forcel, parce que c'est pas, mais malgré tout, enfin, cette idée que mon idée à moi pour traduire, c'est pas un autre chose. Quand je dis que je fais acte d'écriture, c'est pas que je me pose devant l'auteur. Je ne crois pas à cette position qu'on dirait technicienne. Je ne me mouille pas, disons, dans la langue. Je suis simplement, je transmets au mieux la totalité des informations.
Est-ce qu'il y a des traducteurs qui croient ça? Est-ce qu'il y a deux écoles de traducteurs, ou est-ce qu'il y en a plus maintenant?
Non, mais disons, je dirais, et vous voyez qu'aujourd'hui, dans ma présentation, je n'ai absolument pas parlé de fidélité, je ne crois pas à ce mot, je parlais de trahison. Oui. Je crois que la trahison est au cœur de c'est la tradition de la traduction, si je puis dire.
Oui, mais la trahison suppose la fidélité.
Oui, c'est bien ce que je disais, on ne trahit que ce que l'on aime.
Oui. Non, mais c'est, on travaille plus ou moins et on est plus ou moins fidèle. Il y a du plus et du moins.
Justement, je crois que ben, moi, je veux me sortir de cette problématique-là. Je ne me situe pas ni dans la perte, ni dans la question de la fidélité. Je me situe, au contraire, dans la trahison et dans le bien.
Moi, je voulais simplement dire aussi, pour répondre à Jacques, ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'il y a des traducteurs qui font oublier qu'ils traduisent et qui s'efforcent de faire le texte qui paraît le plus naturel possible, et des traducteurs qui, au contraire, laissent l'expression d'une certaine étrangeté qui fait que lorsqu'on lit, on n'oublie pas qu'on est dans une traduction. Je pense par exemple au cinéma ou sous-titres, mais c'est des sous-titres d'une qualité très recherchée, de Daniel Huillet dans les films de Jean-Marie Strobé-Huillet, ou quand c'est les textes de Brecht ou de Hölderlin ou de Kafka, et où le texte d'une syntaxe en français extrêmement curieuse, qui paraît presque massacrée, mais c'est pas du tout par un laisser-aller, c'est un travail absolument considérable qui est fait par ces personnes pour essayer de respecter des ordres de mots qui sont dans la syntaxe allemande et pas du tout naturels en français, qui nécessitent un très gros effort de lecture d'ailleurs.
Et ça, je crois, j'en ai parlé.
Klosowski aussi, dans ses traductions, fait des.
J'en ai parlé dans mon présentation, c'est-à-dire ça, je crois, en effet, c'est une ligne de partage. Moi, je dis qu'il faut recueillir l'étranger. Accueillir l'étranger, c'est reconnaître son intrusion. C'est donc, s'il y a du réfort dans le texte allemand, ça ne viendra pas de l'ail dans mon texte.
Oui, je voulais dire que, enfin, vous n'êtes pas là pour en parler, mais je pense qu'il en parlerait très bien. C'est ce que dit André Markovitch dans la traduction de Dostoïevski. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même une théorie assez ancienne qui est la théorie de la traduction interprétative, où, par exemple, pour le cas de Dostoïevski, où les traductions qui existaient avant étaient très interprétatives et faisaient de la langue de Dostoïevski une langue très académique. Et André Markovitch a retraduit tout Dostoïevski en disant que la langue de Dostoïevski est tout sauf académique. Il l'a retraduit de façon très...
En même temps, là, on parle de théâtre. Excuse-moi, je rappelle juste, parce que c'est peut-être un peu problématique. Parce qu'avoir on pourrait se dire, oui, mais il faut une langue de théâtre. Et d'ailleurs, il y a eu des exemples de traductions de Tchekhov dans les années 50, par exemple, qui non seulement ne traduisent pas Tchekhov, mais l'adaptent délibérément pour l'adapter aux conditions d'émergence du théâtre français des années 50. Je pourrais donner des exemples précis, mais c'est assez terrifiant.
Mais un jour viendra où un autre André dira, mais cet André Markovitch postule ceci sur la littérature, le théâtre. Je pense le théâtre autrement, je pense mon rapport à la littérature autrement, j'énonce d'autres principes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'André, par exemple, est capable d'énoncer les principes qu'il dit. Je crois que c'est, enfin, les grands traducteurs sont justement dans cette situation de dénoncer leurs principes.
Mais une question intéressante, c'est par exemple savoir si le texte est en vers, si on le traduit en respectant la versification, ou si on la supprime, par exemple si on traduit Racine dans une langue étrangère, ça pose vraiment une question intéressante.
Oui,
Et les deux sont, après tout, envisageables.
Dans le domaine allemand, comme on connaît, il y a une très belle narrative. Mm. Et c'est évident que renoncer à tenter,
ou Shakespeare,
à tenter cette équivalence, renoncer à tenter cette équivalence, c'est renoncer à tout. Et donc, je veux bien échouer, mais je veux essayer.
Ça, ah ouais,
c'est y renoncer, c'est d'emblée. Bon, alors, en effet, alors là, c'est une trahison qui est, comment dire, c'est fait en pure perte, si je puis dire. Donc, là, la dégradité des lettres de classe, je vais paraître pas belle. Bon, voilà, l'auteur qui écrit en vers. L'enjeu pour moi était bien de tenter de résoudre, de répondre à cette dimension versifiée, singulière, particulière de Christ. Donc, c'est donc la prise en compte d'un rythme, d'une respiration, d'une scansion, et qui sont autant d'éléments pour le jeu. C'est-à-dire, pour le jeu des acteurs, pour moi, ce qui est décisif, c'est que, encore une fois, le texte étant destiné à la scène et à l'acteur, l'acteur doit bénéficier de tous les appuis possibles, existants, préexistants au texte. On ne peut pas le priver. C'est par exemple un enjeu sur l'Ibsen. Dans l'Ibsen, vous avez une quantité de tirés, de petits mots, d'interjections, de choses interstitielles comme ça, qui semblent très très embarrassantes, lourdes, alourdissantes, etc. On est très tenté de s'échapper des codes de jeu du 19e siècle, mais ce faisant, tout ce qui travaille, je pense aux pièces de la dernière période, tout ce qui travaille ces personnages de l'intérieur, tous ces trolls intérieurs qui les traversent et qui font qu'ils font de l'absus, qu'ils s'arrêtent, qu'ils ont des syncopes, de l'avance, etc. Mmh. Tous ces éléments-là sont scellés par l'orfèvre qu'est Ibsen dans son texte. Et donc, ne pas prendre en compte cette étrangeté-là, qui va produire une étrangeté aussi, et va produire, parce qu'il y a quelque chose, en effet, qui s'est scellé dans la langue, qui appartient au jeu du 19e siècle, à certaines conventions, etc. Alors, et en même temps, dans ce geste de traduction, toujours le sentiment que j'ai, c'est que c'est une des trahisons majeures, mais qui est en même temps un geste formidable vis-à-vis d'un auteur du passé, par exemple, c'est que la traduction rapproche toujours dans le temps. Il ne s'agit pas forcément de moderniser, mais quoi qu'on fasse, parce qu'on est dans notre langue, dans notre théâtre, il y a un effet de rapprochement, quelque sorte, du texte vers nous. Et ça aussi, c'est parfois des textes qui étaient perdus pour la littérature, grâce à la traduction, ressurgissent, sont là. Et quelles que soient les critiques qu'on pourrait formuler, c'est par exemple une traduction de Florence Dupont, l'acte de traduction de Florence Dupont a fait ressurgir dans Sénèque un grand nombre de gens. Et c'est bien un geste décisif pour la littérature.
François, donc, qui a traduit un certain nombre de textes sud-américains pour cette leçon-ci.
Moi, je pense effectivement qu'il faut garder une certaine singularité. Quand à texte, je pense en particulier à une pièce de Costas, les rares pièces de Costas que j'ai traduites. On connaît le style de Costas, qui n'est absolument pas traditionnel, habituel, qui a une musique et une saveur tout à fait particulière. Je me souviens que lorsque j'ai remis la traduction au metteur en scène, il m'a appelé, il m'a dit, tu es sûr, là, c'est bien comme ça, les mots sont bien dans ce sens, est-ce que je ne pas construire la phrase autrement. Je suis désolée, mais Costas, ça, souvent, n'écrit pas sujet, verbe, complément. Il fait une sorte de mélange. Il a un rythme, il a une écriture, une singularité particulière qu'il faut garder. Ça, je pense que c'est très très important de garder cette singularité. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure à propos du Québec. Je ne crois pas que les pièces aient besoin d'être retraduites. Du Québécois en français, du français en québécois. Je reviens du Québec, justement, où une pièce louisienne, ma famille, a été jouée, mais telle que je l'ai traduite. Ils n'ont pas changé un mot. Ils avaient simplement un souci, c'était de savoir si leur accent était bon et compréhensible. Mais ils n'ont pas changé du tout un mot, je crois que là, j'ai pas l'impression, en fait, c'est le...
Ça me semblait clair, mais ça a été un délire à un moment donné. Historique.
Bon, maintenant, ma position par rapport à ce que j'ai pris quelques notes là, sur ce que tu as dit, moi je suis d'accord sur beaucoup de point, c'est-à-dire que je pense que c'est un acte d'écriture, on n'est pas des passeurs, mais on va donner une œuvre originale et en. Je ne sens pas du tout d'édoublement, moi, hein, quand je traduis une pièce. D'abord, j'ai un rapport aussi extrêmement passionnel avec les textes et souvent aussi avec les auteurs, soit homme ou femme. Je pense que ça, c'est très important pour s'imprégner de l'univers, et pas simplement de l'univers de l'écriture, mais de l'univers de l'homme ou de la femme, de l'individu. Ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important pour arriver à des moments importants, cruciaux, décisifs, où on doit choisir un mot. On hésite entre deux ou trois mots, savoir quel est celui qui correspond peut-être le mieux à l'univers, ou à ce qu'est, ou à ce que pense, ou à ce que mange, ou à le manger, ou à ce qui fait rire l'auteur, ou à. Enfin, des choses aussi banales, mais qui finalement passent, je crois, aussi au travers de son écriture. L'humour d'un auteur qu'il transmet, ou sa forme d'humour qui passe dans son écriture, je souhaite, moi, le connaissant et sachant comment il dit les choses, quel est son niveau de langue aussi, je souhaite reproduire le même niveau de langue pour que le public ait le même impact que celui que moi j'ai reçu en lisant l'œuvre originale. Enfin, c'était pas tout à fait traditionnel comme condition facteur, en tout cas on a la même. Hein. Moi, j'ai aussi un rapport extrêmement passionnel. Je crois aussi que, là dans les petites notes que j'ai prises, que il faut être attentif à l'autre, ça je crois. Il faut aussi avouer l'origine étrangère de la pièce, c'est-à-dire ne pas. J'ai l'air de voir des reportages comme ça et pas autrement. Je raconte mon expérience. Hein. Si une pièce se passe, et elle se passe obligatoirement en Argentine, en Uruguay, au Chili, ou maintenant au Venezuela, je ne vais pas la transposer en France. Je ne change pas non plus le nom des personnages, sauf j'ai un exemple à donner pour la pièce d'après-demain. Mais autrement, je ne change pas le nom des personnages, sauf si le personnage. Le calendrier chilien s'appelle Jorge, qui est très difficile à dire pour un comédien. Donc j'hésite entre Fernando ou Ernesto, qui est beaucoup plus facile. Mais de toute façon, il ne s'appellera pas Ernest ou Fernand. Je garde vraiment son nom et l'action se passera au Chili. Oui, je vous disais que il y a un personnage là, dont j'ai changé le nom. Dans ma pièce Photomaton, à la lecture de l'auteur vénézuélien Gustavo Hoth, de la lecture après-demain, un de ces personnages s'appelle l'anarchiste. C'est un personnage épouvantable, odieux, c'est plutôt facho que l'anarchiste. Donc, j'ai écrit à l'auteur, je lui ai dit que ça m'ennuie de l'appeler l'anarchiste, parce que ça a une connotation chez nous qui ne correspond pas à ce que dit et à ce qu'est ton personnage. Moi, je ne peux pas, je pense tout de suite aux anarchistes de la guerre d'Espagne, etc. Donc, ce n'est pas possible, on ne peut pas l'appeler vous-même, Léo Ferré, enfin bref, on ne peut pas appeler un personnage comme Dieu, l'anarchiste. Ça, ce n'est pas possible. Alors, ça c'était un problème de traduction. Bon, je ne vous dis pas comment j'ai résolu. Bon. Mais alors, pas simplement le nom du personnage, mais que le personnage arrive et il y a une foule derrière lui, parce que c'est un meneur d'hommes, hein, c'est vraiment le facho intégral, c'est un meneur d'hommes, il arrive et autour de lui, il y a ceux qui sont d'accord avec lui et qui scandent son nom. Anarchista, anarchista, anarchista. Donc il fallait trouver quelque chose, hein, aussi qui claque. Seul, soit fort. Bon, je peux dire, mais.
Suspect.
démago. On pourra en parler après, si vous voulez, après la lecture. Hein. Pour en discuter, vous pourrez me dire si je garde un arpon démago, si je regarde ou pas.
Oui, parce que vous posez une question, parce que est-ce que dans le texte original, l'anarchiste est péjoratif pour ceux qui l'emploient?
Ah ben oui. Un anarchiste, c'est péjoratif, parce que sinon, on devrait parler comme ça.
Ah oui. C'est-à-dire, ceux qui l'appellent l'anarchiste, voilà. C'est une insulte.
C'est une insulte. Ouais. Chez nous, c'est pas une insulte.
Chez nous, je ne sais pas si on a tous le même pays. N'allez pas dans
la Mousson.
Sur le territoire de la Mousson. N'allez pas dans la Mousson.
Je voulais parler du Québec, puisque j'y travaille en théâtre. On parle du Québec. Je pense aussi que les pièces, qu'elles soient écrites en français, qu'elles soient en québécois, si elles vont dans un pays, si une pièce québécoise est jouée ici ou une pièce française est jouée au Québec, je pense aussi que c'est très triste quand on se met à parler de traduction. C'est sûr qu'il y a des choses qui nous échappent. Moi, dans la lecture cet après-midi, il y avait un terme pour un instrument, c'était quoi, c'était Pignou.
Pignou.
Comme ça. Ça ne veut rien dire pour moi. Mais évidemment, dans le contexte, avec les acteurs, avec le texte, on en vient à déduire dont il s'agit, on va bien comprendre. On a affaire à ce moment-là à un seul ensemble de références, on a affaire à un registre langagier, celui de l'auteur. Ça passe ou ça passe? C'est vraiment comme ça. Je pense que c'est important pour les textes québécois ici. Il y a évidemment des exceptions, je pense à Daniel Danis qui lui écrit dans une langue inventée qui est la sienne. Donc il y a du français, il y a quelques mots québécois, souvent il y a un glossaire d'ailleurs, des programmes, et il y a du Danis. Et chez nous, c'est aussi étranger que ce qu'est pour vous ici. Par contre, quand on vient à la traduction théâtrale, et là je trouvais ça intéressant quand vous disiez que c'est une traduction qui s'adresse à d'abord les metteurs en scène et les comédiens, chez nous on va privilégier une traduction qui est faite en général. La plupart des traducteurs vont privilégier ça. Pourquoi? Parce que là on a un deuxième ensemble de références et un deuxième engagé. C'est-à-dire qu'on a d'abord affaire à la langue originale, on a d'abord affaire au sens, à la poésie. Et tout ça dans le texte original. En plus, on ajoute les références françaises, le langage d'ici. Et après, il faut aller au metteur en scène et au comédien, qui évidemment ont plus de difficultés à mettre en bouche un texte, surtout s'il y a dedans des termes qui ne nous sont pas familiers, un rythme qui ne nous est pas familier non plus. Alors les comédiens ont des difficultés de plus. Alors là, on en est presque à deux traductions. On en est presque à deux fois à essayer de déchiffrer ce que l'auteur. Puis le traducteur vous dit, et à se mettre en bouche et à essayer de travailler avec ça, c'est d'autant plus difficile. Alors c'est sûr que chez nous, on va privilégier une traduction qui est faite chez nous. Je pense par exemple à Gideon Way de Greg Burke qui a été traduit en France, et que nous on va faire traduire par exemple à nous. Et évidemment, c'est pas tout le temps non plus le joie de Michel Tremblay, c'est pas tout le temps oui, tout le reste, mais il y a quand même une difficulté qui est enlevée pour les acteurs et pour les metteurs en scène.
Mais il y a aussi, je ne sais pas si ça n'a pas été évoqué directement, il y a aussi la somme des références. Les références qui dépassent. Ma fille de 5 ans était assez fascinée parce qu'elle a entendu une pièce récemment à Montréal, parce qu'un enfant, une pièce de Tremblay, un enfant jetait de la glace sous les voitures. Évidemment, elle était fascinée parce qu'elle avait compris que c'était de la crème glacée. Parce qu'elle n'imagine pas qu'au Québec, il y aura de la glace comme ça couramment dans les caniveaux et qu'on peut en balancer sous les voitures à n'importe quel moment. Alors là, on est en train dans un problème de référence et même pas dans un problème de langue.
Alors justement, je voulais poser une question par rapport à ça. Parce que quand on est, justement, moi je me suis confrontée en tant que traductrice à ces problèmes de traduction d'un référent culturel. Quand on est dans un roman, on peut mettre une note en bas de page pour expliquer la chose. Quand on est au théâtre,
il faut trouver quelque chose qui donne une piste au spectateur. Je pense en particulier, là il y a un exemple qui vient, une pièce de Gisèle Lagrande-Vallaud qui s'appelle La Marée Sanglée, qui se passe, l'action se passe au siècle dernier, sous la dictature. Une des dictatures, et à l'époque, la couleur obligatoire, c'était le rouge. Il fallait que tout le monde porte du rouge, c'est comme ça. Et donc, le mot rouge venait très souvent dans le lexique. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui se présente, pour être engagé quelque part. Et un élément qui est important et qui fait qu'il va être engagé, lui, plutôt que le piano, c'est qu'il a des gants pour rouge. Donc la femme dit à son mari, ah, il est très très bien celui-là, et puis il a des gants rouges. Donc si on dit ça en français, il a des gants rouges, bien, c'est une référence, donc il fallait trouver quelque chose. Moi, je voulais trouver un truc. Bon, le truc que j'ai trouvé, c'était simplement, j'ai demandé à l'auteur si elle était d'accord, de rajouter trois mots. Comme les nôtres. Alors, qui est comme les nôtres, comme les gens qui sont de notre bord. Et la comédienne a dit, comme les nôtres, d'un air qui sous-entendait, ça c'est le jeu de la comédienne. Les trois mots permettent de donner une piste sur le sens sans rajouter cette fameuse note, ou de toute façon on ne pourrait pas rajouter, mais surtout sans donner trop d'explications. Parce qu'il ne faut pas donner d'explications, je crois. Il faut laisser une part de mystère, enfin, planer. Voilà, voilà, les choses comme ça.
Peut-être qu'il y a des défauts. On est parfois amené à ces solutions. Mais au fond, je me souviens, moi, d'adolescent lisant Marivaux, par exemple, dans ma langue, donc. Point d'opacité au maximum. Donc je me dis, évidemment, si l'opacité s'accumule, c'est autant de temps perdu pour le spectateur qui va avoir passé ce texte, qui va être rapidement noyé. Mais les points d'opacité peuvent, enfin, encore une fois, c'est ça, reformuler l'énigme, c'est accepter de ne pas pouvoir le résoudre, et donc un point d'opacité peut être, comment dire, aussi pour l'acteur. C'est-à-dire un point d'opacité, ça peut être aussi pour l'acteur une source pour le jeu, pour l'imagination, pour le travail de l'imagination. C'est-à-dire que le texte fait son chemin aussi avec ce point. Bignou, voilà. Bon, et puis on voit arriver à la fin David avec son bignou.
On comprend que c'est pas l'instrument breton avant. Mais bon, c'est par exemple, non, c'est un exemple intéressant parce que je suis sûr que pour un certain nombre de Français, ils savent pas que ça appartient à l'argot des musiciens, par exemple.
Bon, c'est un argot d'argot.
Ça dessine pas forcément une trompette. C'est un instrument et par dérision, dans l'argot du jazz, c'est en effet un instrument.
C'est un instrument avant.
Avant, comme le bignou breton est un instrument avant fondamentalement.
Mais dans les rapports entre.
Non, je voulais juste finir parce que François Sauber a une chose très intéressante tout à l'heure sur la question de l'écart par rapport à l'exemple de Cantabria. C'est aussi une chose qui est très difficile, enfin qui touche aussi pour moi à l'essence du théâtre. C'est-à-dire, parfois on peut être comme dans la vérité, si je puis dire, du texte. C'est juste, mais pourtant c'est faux. C'est-à-dire, on a beau être exact. Tout d'un coup, la chose est perçue comme une faute de traduction. Et qu'est-ce qui fait, enfin, comment faire pour que l'audace du traducteur, qui répond à l'audace de l'écrivain, ne soit pas perçue par l'auditeur comme, non, quelle lourdeur dans l'expression, ou quelle maladresse, et ça, c'est une difficulté. Et parfois, on est obligé de trahir, en quelque sorte, non pas pour normaliser, mais pour surtraduire, en quelque sorte, pour qu'il soit clair pour l'auditeur, que c'est bien une volonté de l'auteur, enfin, que c'est clairement...
Ça correspond au cycle.
Oui.
Trouver une autre singularité.
Trouver une autre singularité.
Et pas la traduction, pas une singularité qui soit une traduction des mots, mais trouver une singularité qui passe dans la langue française comme étant une singularité de la langue française. Parce que c'est la langue française, finalement.
Il y a Marie-Ange, je dirais, je te passe la parole.
Il y a deux petites choses par rapport à votre traduction.
Tu parles pour tout le monde, s'il te plaît, je ne m'entends pas d'abord.
Par rapport à votre traduction allergique, je suis tout à fait d'accord, mais j'imagine ce que Jean-Pierre essayait de dire, que finalement, si ça passe pour une insulte, ce lexique, c'était
Venezuela.
Peut-être que ça passe aussi pour une insulte pour
un certain nombre de gens, oui.
Donc, cette espèce de. Et je repensais
à ma gourde.
Ah oui, ça c'est bien. Là, c'est par rapport à la pièce de David qu'on a travaillé avec ce matin, où il y avait peut-être la notion de bignou qui pouvait être opaque, toutes les références aussi à des musiciens, et nous on s'est quand même heurté à un problème qui est purement linguistique, Est-ce que le fameux Bibi avec un B majuscule, c'était le professeur moi, enfin, c'est moi, ou est-ce qu'il y a un musicien quelque part, un mauvais jazzman qui s'appelle Bibi, quoi, enfin qui aurait, c'est ce qu'on voulait vous demander, parce qu'on s'était posé la question, ce fameux Bibi, est-ce que
c'est...
C'est
vrai que ça, on est dans un problème d'astuce, c'est-à-dire qu'il faut... Là, c'est de la traduction, c'est-à-dire c'est... Moi, je m'empare d'un univers réel, je le transforme et je trouve un mot, un signe pour qu'à la fois ça renvoie à ça et qu'en même temps ce soit pas, je ne donne pas son nom, son véritable nom. Alors, Bibi, en l'occurrence, c'est, il existe. C'est Bibi King. Donc, c'est un fameux guitariste de blues.
Oui,
on l'a évoqué sur
le pensé, j'imaginais une voix traduisant en allemand deux pièces, ouais. Il aurait peut-être dit l'équivalent de ces mots à ces Bibi.
Je pensais à la traduction,
parce qu'il s'est posé en français la question, j'imaginais.
Mais c'est... Là aussi, ce que la réponse de David, je la trouve éclairante pour le travail du traducteur, parce que justement, ce qu'il préserve, c'est ce que j'appelle l'équivoque. Finalement, la poésie, c'est bien ça, c'est cet art de l'équivoque, de maintenir l'équivoque, c'est-à-dire laisser ouvert. Et laisser travailler l'auditeur sur la pluralité des sens qu'ils sont faits. Alors, le metteur en scène, l'acteur, par son travail et son jeu, peut infléchir, induire, fermer des portes et privilégier telle lecture, comme on dit, etc. Mais je souhaite, enfin, je rêve que la traduction puisse, comment dire, à l'égal de l'original, d'une certaine façon, proposer une police. Potentiellement une polysémie.
C'est vrai qu'il s'agit d'un nom, même ce démon, d'un surnom. Comment le traduire dans une autre langue sans, en gardant cette ambiguïté?
C'est tout l'enjeu. C'est un très bon exemple, cet exemple de Bibi. Parce qu'effectivement, traduit en allemand, traduit en anglais, ou Bibi, on s'entend de nom commun, ça ne veut pas dire moi. Si on traduit. En allemand, Bibi, ben, on perd la moitié du sens.
Juste pour répondre à Laurent, c'est... En fait, bon, dans ce cas-là, sur Bibi, on perd la moitié du sens quand on passe en allemand, mais peut-être qu'ailleurs, on va gagner. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne me place pas dans la perte. Je pense qu'à l'arrivée, les comptes sont en équilibre.
C'est un traducteur optimiste.
Oui, chose aussi, mais moi, je ne sais pas si ça existe dans le théâtre, peu importe. Par exemple, les patois, je pense à Camille Héry dans les Bollards. Certaines fois, le traducteur ne traduit pas du tout parce que c'est du calabré et il garde non seulement la syntaxe du calabré en français, mais il garde des phrases totalement calabrées. Et quand vous êtes heurté à des patois comme ça, ou à des dialectes, ou à des codes, linguistique, comment
on traduit
ça?
Du patois, c'est un sujet en soi.
On va se lever à tous les cas d'école qui en soi constituent.
Ça donne quelques horreurs.
C'est, oui, c'est vrai. Et puis par exemple, en Argentine, on comprend très bien l'italien. Il n'y a pas besoin, une pièce peut être écrite, elle est écrite en espagnol, et puis il y a des passages qui sont certaines répliques d'un grand-père ou d'une grand-mère qui sont en italien et que tout le monde va comprendre. La génération suivante fait ce qu'on appelle la mescolanza, d'ailleurs un mélange à la fois mescolanza, lanza c'est italien, donc un mélange à la fois d'espagnol et d'italien. Donc c'est encore une autre langue, avant d'arriver à la troisième qui est la langue argentine. Bon, je pense en particulier à une pièce qui s'appelle Stefano, qui est une pièce de Discepolo, des années 40, donc, et qui présente une famille où il y a les trois générations. Donc là, c'est vrai que ça a posé un problème, c'est pas le patois, mais c'était une autre langue, donc c'est vrai que ça a posé un problème au moment de la traduction. Alors là, c'est pareil, je veux dire ce que je disais tout à l'heure, on trouve des espèces de des sortes d'astuces qui montrent que les trois générations ont un langage, une langue différente, mais il faut arriver à faire en sorte que les trois langues, on remarque que les trois langues sont différentes, mais que les trois langues soient compréhensibles par le public français. Donc là, on jongle un peu.
Monsieur a demandé la parole il y a longtemps. Peut-être qu'on revienne sur le plateau après si vous le souhaitez, mais enfin on en a peut-être
oui, deux. Je ne veux pas dire que je ne vous remercie ce qu'a dit Éloi sur. C'est vrai que c'était très poétique. Je vais donner simplement un détail de la technique. Je viens de finir la traduction de la pièce d'Israël Horowitz, 3 semaines après le paradis, qui relate les événements du 11 septembre, vu par ce dramaturge américain. Et à un moment, dans la traduction, il parle des attentats de la guerre sur Bagdad il y a 10 ans et dit les bombes tombaient comme un feu d'artifice du 4 juillet. Je donne le manuscrit à mon éditeur, à l'enseigne des éditions de 80, et elle dit là, il faut mettre une note. Il faut mettre une note parce que le public français qui va lire ça va croire qu'on a fait une faute, nous, l'éditeur, c'est du 14 juillet. Donc préciser que c'est bien la fête nationale américaine. Le 4 juillet, je téléphone à Horowitz, qui me dit non, c'est un quand même, etc. Négociation avec l'éditeur, finalement on met la note, pas de page, tout simplement, le jour de la fête nationale américaine, résultat des courses, l'éditeur a reçu une dizaine de lettres incendiaires disant vous prenez vraiment votre lecteur. Donc c'est tout à fait ce que tu dis, parfois on veut aller trop loin, on veut rendre tout ça propre, on veut vraiment. On a peur que la faute de traduction va être imputée aux traducteurs. Et je crois qu'il faut, c'est ce que nombreux des intervenants ont dit, je crois qu'il faut effectivement essayer de se glisser totalement dans la langue de la personne que l'on traduit.
Mais en tant que métaphore de se glisser, la traduction, je sais que quand je dis que moi je procède à une métamorphose, je n'espère pas rentrer dans le costume. Je sais que je vais faire sauter les coutures. Je comprends très bien métaphoriquement ce que vous dites, qui est une autre manière de dire ce que je disais quand je parle de cette attention accrue, incroyable, que l'on porte au texte de l'autre, à sa langue, à son champ culturel, à son histoire, à l'histoire même, à l'auteur lui-même, aussi, on a la chance qu'il soit vivant. Pour notre ami. Et trop de clarté tue le plaisir de regarder José Brecht. Je crois que dans la traduction, on trouve trop de la volonté de.
Je crois que c'est ce qui est en train de s'imprimer depuis une heure et quart, c'est ce que j'entends très fort. Trop de clarté nuit.
qui t'a éclairé au moment de la première répétition, ajoute certaines informations, mais les informations ne sont pas dans le texte. Et les informations, je les donne pour les comédiens, pour le metteur en scène, qui puissent, eux, en tenir compte, éventuellement, faire passer dans le jeu.
Et puis le problème n'est pas le même selon qu'on a affaire à des textes qui sont des textes de référence ou à des textes contemporains.
Oui. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Enfin, dans le fond, on est tous confrontés à des textes français auxquels, à la première lecture, parfois, on a le sentiment de ne rien comprendre. Donc, quand vous avez la responsabilité de traduire des textes qui sont porteurs d'aucune tradition, vous avez une responsabilité gigantesque, vous avez des codes à inventer. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est différent? Tu as donné quand même relativement beaucoup d'exemples en classique ou ancien. Et là, qu'est-ce qui se passe quand, je sais pas, quelqu'un traduit Novarina?
Choses évoluent. Ben, sur Novarina, c'est un bon exemple. Novarina, on comprend pas à peu près la moitié de ce qui vient dans cette pièce uniquement par un système de référence et de ce qui rend d'ailleurs le travail du public intéressant chez Novarina, c'est qu'on reconstitue de reconstitution du sens à partir des écarts et des distorsions et des inventions de mots qu'il fait. Alors là, c'était Novarina, c'est pas traduisible. Et j'ai assisté à Novarina, un traducteur grec, un traducteur espagnol, une traductrice italienne, un traducteur allemand. J'ai assisté à la lecture de l'origine rouge en allemand. C'était le délire, hein, ça. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à un traducteur qui s'est emparé de ce texte qui a construit tout un système de référence et d'équivalence et de possibilités d'invention en tenant compte des spécificités et du fonctionnement, de la construction même de la langue allemande, qui n'est pas la même que la construction française, qui a reconstitué un texte qui donnait, quand on connaissait l'original, on avait vraiment l'impression d'être dans une autre version, l'allemand. C'était absolument, absolument passionnant. Ce qui se passe quand on livre un texte, qui est un texte, un premier texte, un texte en mesure inédit, à des metteurs en scène, les choses sont en train de... Les choses sont en train d'évoluer sur ce terrain-là. Mais je sais que les premières fois, quand il y avait des étrangetés, la première réaction qui est une réaction qu'on comprend et qu'on assume, c'est qu'il doit y avoir un problème de traduction. C'est systématique. Et c'est normal parce que vous êtes l'intermédiaire. Donc c'est forcément à vous qu'on va s'adresser.
C'est comme en diplomatie, quoi. Quand il y a un incident, c'est la faute du traducteur.
Est-ce que vous êtes sûr? C'est le premier réflexe. Mais ça, c'est le réflexe à la première lecture. Lorsque des metteurs en scène lisent 2, 3, 4 fois la pièce avant de vous appeler, c'est déjà plus tout à fait le même type d'appel. Parce que on, c'est comme quand on lit un texte français difficile pour la première fois, mais la deuxième fois on comprend un peu mieux, la troisième fois encore un peu mieux, etc. etc. Ça fonctionne de la même façon pour le texte.
David,
comment vous comportez les uns les autres quand, par exemple, l'auteur a accès à la langue dans laquelle il est traduit et qui fait une proposition? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est définitif? Ou bien est-ce que ça engage une discussion?
C'est des questions sémantiques. Après, c'est des questions de sens. Lui peut croire quelque chose, peut croire que ce qu'il dit là peut se dire comme ça dans ta langue, et toi, tu viens, tu lui dis « Attention, c'est pas la même chose. » Ou alors, parfois, il est parfaitement compris ce qu'il propose.
On a des cas historiques exemplaires. Beckett, par exemple, se traduisant lui-même, donc à ce moment-là, on discute avec lui.
On verra découvrir avec horreur les traductions.
Qui, pardon?
Kundera découvrira avec horreur les traductions quand il a.
C'est vrai que par rapport au texte, disons, les premières traductions d'un texte contemporain, moi j'ai une attitude. Parce qu'on avait beaucoup moins de références, beaucoup moins d'histoire, en fait. Le palimpseste de son interprétation est à faire, est à venir. Et donc, je suis. C'est vrai que j'ai tendance, dans ces cas-là, à me replier sur une position, je dirais, de la forme. C'est-à-dire, je ne veux pas m'avancer trop sur des interprétations, sur des grands schémas, grilles dramaturgiques, pour entraîner la pièce d'un côté. J'essaie de remettre comme si. Enfin, image comme ça, de réentendre comment ça, la machine a frappé sur le papier, comment le stylo a couru sur le papier, comment ça et organiquement, intuitivement, organiquement, essayer de comprendre comment ça se déroule. Et c'est vrai que j'ai un peu le nez dans le guidon comme ça, je ne cherche pas tant à avoir une idée supra-textuelle comme ça qui guiderait l'ensemble de la traduction. Alors des fois, en effet, ça donne ce que tu disais tout à l'heure, on avançait, on se dit, merde, c'est pas pris le bon chemin. Et...
Ça arrive même parfois lors des premières répétitions, tout à coup, on vient, on assiste, on travaille à la table, on ne se rend pas encore compte, puis on assiste aux premières répétitions, puis on voit la situation sur le plateau, on se dit, mais oui, c'est ça. On s'en est pas rendu compte quand on était dans la... Puisqu'on avance à tout.
Et donc, dans ce cas-là, tu retraduis entièrement en fonction du plateau.
Bien sûr.
Sans remords.
Mais bien sûr, mais c'est même une. Enfin, dans le cas de la traduction de l'allemand, on a d'autant moins de scrupules à le faire que quand un auteur écrit une pièce, il y a toujours une version de plateau, une version définitive. Et souvent, la version définitive est celle qui est faite après la première. C'est la première, la création a lieu sans qu'il y ait le texte édité. Le texte est édité après, et il sert de référence. Et même après ça, les metteurs en scène postérieurs peuvent s'en éloigner. Donc il n'y a, pas cette sorte de. Il n'y a pas ce caractère définitif de la traduction. Je pense que c'est très utile. Je pense que pas mal de traductions souffrent justement du côté absolument inflexible des traducteurs. C'est vrai qu'une traduction peut être infléchi par le plateau, et c'est bien.
Mais à partir du moment où, comme je l'ai défini, la traduction se joue dans cet écart non réductible, eh bien, évidemment, c'est quand même l'art de la variation. Je sais bien qu'une autre variation est possible, qu'un autre tournure est possible. Alors, moi, j'ai aucune douleur par rapport à ça. Simplement, ce qui est vrai par rapport au plateau, c'est que. Une traduction, c'est au bout du compte, en effet, une forme, comment dire, cohérente, qui a une cohérence, par exemple, une cohérence lexicale, une cohérence syntaxique, la manière dont les métaphores se déclinent à l'intérieur du texte, etc. Et donc, à partir du moment où un metteur en scène qui est un mauvais lecteur, en quelque sorte, commence à pouvoir tirer un fil, déliner la plot très vite, c'est-à-dire très vite, tout se défait, et la logique que vous avez construite se défait. Et rien ne résiste finalement, c'est comme finalement. C'est pour ça que je dis qu'il y a un acte de croyance aussi, et qu'il y a de l'illusion, qu'on a accès à l'original à travers la traduction. C'est ce texte-là, voilà, qu'on montre maintenant, et c'est sa logique. Alors, de temps en temps, on peut revenir à l'original aussi, mais très vite, c'est une situation qui est impossible.
Il faut
rentrer dans la logique de la traduction.
Il y a une question de charpente. C'est vrai que dans le rapport avec le metteur en scène, on a un champ de variation, mais il ne faut pas que ça attaque la structure. Parce que si la structure est attaquée, c'est tout l'édifice qui se casse la gueule. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on a tous eu, je crois, surtout dans le domaine contemporain, des expériences terribles de metteur en scène qui bidouillent les textes. Et, alors, on parle pas de ceux qui ensuite négocient les droits dans votre dos pour toucher les droits
d'auteur. C'est pas le sujet. Pierre, tu as demandé la parole.
Oui, simplement, il faut dire que moi je trouve ça très intéressant tout ce que vous dites sur sans vous positionner, mais finalement j'ai tout entendu de mon point de vue d'acteur. Et il me semble qu'il y a des choses qui sont très 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 similaires. Sauf que vous, à un moment, vous allez produire un texte, alors qu'un acteur va pouvoir, peut-être 6 mois après, remettre, rejouer, puis se dire, tiens, merde, ça, j'avais pas compris ça comme ça. Il va y avoir d'autres. On voit même en tant que spectateur, quand on revoit une pièce qu'on a déjà vue 15 fois, une grande pièce, on se dit, tiens, ça, j'avais pas. Je l'avais pas entendu, je l'avais pas saisi, je l'avais pas entendu comme ça. Donc, peut-être qu'on pourrait dire qu'en fait, on est tous des interprètes. Quoi. Enfin, on se retrouve autour de ça. Et simplement, ce que je voulais dire, c'est que peut-être il ne faudrait pas qu'il y ait une coupure entre le travail du traducteur d'un côté et puis le travail des interprètes de l'autre. J'entends un peu ça, là. Ça me gênerait un peu que l'acteur soit obligé de... Je trouve très bien qu'on ne fasse pas des textes très clairs. Est-ce que l'acteur a besoin de tout expliquer dans son jeu aussi? Est-ce qu'il n'est pas un peu dans la même position que vous? Moi, ça me paraît important, ça. Et moi, je crois que les grands acteurs, c'est les acteurs qui jouent le texte et qui, en même temps, jouent autre chose de secret que je peux interpréter, que je peux inventer, moi, en tant que spectateur. Peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas, cette partition-là, secrète, je la vois passer. Et peut-être que pour vous, c'est un peu la même chose aussi, pour les traducteurs.
Je crois, j'ai souvent tendance à penser que dans l'acte de traduction, il y a une part de soi-même qu'on traduit. qu'il y a, c'est à la fois les rêves que le texte nous inspire, comme le metteur en scène met en scène pas seulement, pas essentiellement, pas simplement le texte, comme on dit, mais aussi les rêves que ce texte nous inspire. Il y a nécessairement, et ça rentre dans le mouvement de la métamorphose et dans le mouvement de la trahison, quelque chose qui relève de ça. Par rapport au dialogue avec les acteurs, moi je peux dire que constamment, encore aujourd'hui, Philippe Girard m'a appelé Strasbourg pour me parler d'un problème sur Schopenhauer et de savoir, le dialogue est continu, mais ce qui est. Parce qu'on a affaire justement à des gens qui sont dans le même. Dans la même problématique. C'est pour ça que je disais en blaguant que parmi les mots, on avait mis la traduction parmi les mots de la dramaturgie, mais j'en fais le mot de la dramaturgie. J'en fais le mot de la dramaturgie.
Je crois que ce sera le dernier mot pour aujourd'hui. Je crois que ça a été une séance intéressante. Je vous remercie beaucoup les uns et les autres et de toute façon.